En 2008, un professeur d'histoire du collège de Lourdes, Louis Luciani, décide avec ses élèves de préparer le concours national de la Résistance. Leurs travaux minutieux vont mettre en lumière une vérité que les Corses n'ont jamais voulu brandir comme un exploit. La Corse est le seul département français à n'avoir pas déporté de Juifs pendant la Shoah. En 1941, le gouvernement de Vichy donne l'ordre aux préfectures d'arrêter les Juifs étrangers. Le préfet de Corse, Paul Ballet, transmet alors son rapport. Il n'y a que 146 Juifs en Corse, pas un seul enfant et surtout aucun Juif étranger. C'est bien entendu un énorme mensonge, car dissimulés aux quatre coins de l'île, les familles juives ne sont pas rares. Des familles françaises, mais aussi allemandes ou autrichiennes, qui sont venues se réfugier au début du conflit, ou encore 800 Juifs ayant fui en 1915 les tensions de la fin de l'Empire ottoman. Quand en août 1942, Vichy commande de grandes rafles, aucune n'aura lieu en Corse. Serge Klarsfeld, historien et avocat, défenseur de la cause des déportés juifs de France.
Il n'y avait pas que des justes en Corse, mais il y a eu beaucoup de justes en Corse qui ont aidé les juifs à traverser l'année 1942, essentiellement, et 1943 aussi, sans être arrêtés et déportés. La Corse est le seul département de France à n'avoir livré aucun juif, à part un juif qui a été arrêté après la grande rafle du 26 août 1942, à cause du secrétaire général de la préfecture qui était hostile aux Juifs et en l'absence du préfet qui, lui, était particulièrement philosémite et qui a beaucoup aidé les Juifs. Je pense que le préfet de Corse avait été également... Il n'aurait peut-être pas fait ce qu'il a fait s'il n'avait pas été... influencé par les traditions corses. Si la population avait réclamé l'arrestation des Juifs, s'il y avait eu des lettres de dénonciation, si les officiers, la gendarmerie avaient été hostiles aux Juifs, eh bien, si les maires avaient été hostiles aux Juifs. Or, les réponses des maires, c'est aucun Juif dans nos communes. Donc, on aurait arrêté les Juifs si la population avait été hostile aux Juifs. L'influence seule du préfet n'aurait pas été suffisante pour contrecarrer la volonté et de la population et d'organes de l'État.
Peut-être que les Juifs, entre eux, ils ont transmis ça, entre eux, grand-père, père et petits-enfants, et que chez nous, c'était pas un fait historique, parce que pour eux, c'était normal.
Oh, mais... Oh. Ti ricordi quello dragolino?
Oh, vraiment, le vrai dragolino alla base, dans les temps, c'était le marchand d'huile, le balanais. Et les Juifs, ils sont venus après.
Si la Corse s'est montrée exemplaire durant la Shoah, l'histoire entre les Juifs et l'île de Beauté date de bien longtemps. Elle commencerait autour de l'an 800 de notre ère, quand une immigration venue d'Égypte se serait installée dans le sud de la Corse, principalement à proximité de Lévis, village situé à environ 20 km de Porto Vecchio. Par la suite, les membres de la communauté se sont dispersés un peu partout dans l'île, en devenant partie intégrante de la population autochtone. Michael Langlois, chercheur.
Pour ce qu'on sait de l'histoire de l'Antiquité, on sait qu'il y a une présence... Alors, de populations sémites, notamment les Phéniciens, ce sont les voisins des Hébreux, ils parlent la même langue, vraiment peu de choses près, hein, c'est le même, quelques petites différences dialectales, et on sait par exemple que les Phéniciens avaient des comptoirs commerciaux dans toute la Méditerranée. Au tournant de notre ère, on a une mention des Juifs, alors là pour le coup c'est malheureusement une source un petit peu triste, puisque c'est l'empereur Tibère qui exile des Juifs. Et il les déporte et il les envoie dans la province romaine de l'époque, qui est la province qui réunit la Sardaigne et la Corse. Alors on ne dit pas exactement à quel endroit ils sont placés, mais on sait que la Corse, à l'époque romaine, était utilisée une sorte de prison géante. Vous voyez, on déportait des gens, les envoyait là-bas, à cause de la topographie, du relief, on disait on va les envoyer là-bas. Et donc il est possible que sous l'empereur Tibère, donc au tournant de notre ère, qu'il y ait plusieurs milliers de juifs qui étaient déportés en Corse. Ce serait peut-être la première implantation, en tout cas attestée de sources littéraires.
C'est en plein siècle des Lumières que la petite île de bergers et de montagnards se métamorphose en République moderne. En 1755, Pascal Paoli, tout juste 30 ans, dote la Corse d'une constitution prônant la souveraineté du peuple et donne ainsi aux Juifs leur premier statut de citoyen à part entière.
Paoli dit, et donc il est vrai que Paoli à Île-Rousse reçoit des familles, les Savelles, les Blasines, les Salvini par exemple, qui sont des familles juives qui sont venues s'installer pour développer le commerce. Il y a une chose qui est très importante pour la Corse, c'est l'existence de la franc-maçonnerie dès le milieu du XVIIIe siècle. On ne sait pas trop quand Pascal Paoli a été initié. Bon, on est certain que Pascal Paoli est franc-maçon à partir de 1778 en Angleterre, et il est certain que ça a énormément joué en matière de tolérance religieuse. Et Napoléon, qui est fils de maçon, donc Carlo Bonaparte était maçon ajaccien, son frère Joseph était louveteau, et donc Napoléon a grandi dans cette atmosphère. Napoléon est quelqu'un qui est à l'origine du premier grand statut d'une communauté juive. Napoléon, alors qu'il est que Bonaparte, en 1797, découvre ce qu'est un ghetto. Il découvre ce ghetto à Ancône, donc en Italie. Il voit des hommes qui portent donc la rouelle, qui portent un bonnet jaune, qui portent un brassard. Et l'idée force de Napoléon, c'est d'intégrer les juifs à la citoyenneté. Et il y a de très belles phrases de Napoléon au sujet de la communauté juive. Il dit « Mon premier désir était de libérer les Juifs et d'en faire des citoyens à part entière. Je voulais leur accorder les droits de liberté, d'égalité et de fraternité dont jouissaient les catholiques et les protestants. »
En 1492, le royaume chrétien d'Espagne expulse ses Juifs et les convertit de force. Naissent alors des maranes, des juifs convertis au catholicisme qui continuent à pratiquer leur religion en secret. Au XVIe siècle, des juifs maranes immigrent en Corse. Ils portent des noms devenus aujourd'hui célèbres, Zuccarelli, Giacobbi, Simeoni. Plusieurs générations après, des rituels ancestraux existent toujours sans que pour autant ceux qui les réalisent en connaissent la signification initiale. C'est le cas de ces familles chrétiennes qui encore aujourd'hui allument des bougies tous les vendredis soirs, et d'autres qui bannissent le blé pendant la période de Pâques. Didier Long.
Ma grand-mère était extrêmement catholique, était extrêmement pieuse. Son mari étant mort très jeune, elle vivait toute seule dans son appartement avec sa mère qui, elle, ne parlait que corse. Elle dormait dans le même lit avec et il y avait leurs deux filles. Et cette femme-là, en fait, offrait des cédras. En fait, tous les automnes, quand l'hiver arrivait, pour Noël, elle envoyait un gros cédra confit à la maison. Et toutes les années, on recevrait le cédra confit. Et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, quoi. Je croyais que c'était un truc chrétien. Voilà.
En réalité, l'histoire des étrogimes de Corse, les cédras en hébreu, est une très ancienne histoire juive. Le cédra est utilisé dans le rituel de la fête juive de Soukhot, la fête des cabanes. Il doit être, selon la tradition rabbinique, sans tache, avec sa queue, non greffée, et fait l'objet d'une surveillance très stricte et coûte donc très cher. Depuis le XVIIe siècle au moins, Gênes était la place centrale où toute l'Europe venait se fournir pour ses fruits rituels, avant que la production corse ne supplante celle de la côte ligure. Le cédra de Corse, espèce la plus ancienne, présentait la particularité rare d'être encore cultivé franc de pied, c'est-à-dire sans greffe. C'est ainsi qu'en 1875, les rabbins de Lituanie, avec à leur tête Rav Kovna et Yitzhakel Arman Spector, interdisent l'utilisation des étrogimes de Corfou à Soukhot pour encourager ceux de Corse. Jean-Claude Ribaud, agrimiculteur.
Moi, mon sentiment, tout le cédra dans les bassins méditerranéens, c'est l'aventure juive, c'est l'aventure israélite, c'est le culte qui le propage. On trouve des juifs ici en Corse il y a longtemps, hein, ils sont venus après, Pascal Paoli en a fait venir, mais même avant, c'était la culture juive qui a fait introduire le cédra dans tous les endroits possibles et imaginables en Méditerranée.
François Lureau, chercheur à l'INRA.
Donc on en trouvait par exemple au Maroc, on en trouvait en Italie, en Sardaigne, un peu partout. Partout il y avait une communauté juive. Et la Corse a été également une terre qui a fourni qui prétendait et qui a vendu également des cédrats à la communauté juive. Et on en retrouvait un peu partout en Corse. On parle surtout du Cap Corse, parce que c'est beau, les terrasses qui descendent jusqu'à la mer. Mais on en trouvait dans le Niort, on en trouvait dans Castaniche, on en trouvait dans la région de Cervione.
De nos jours, il existe deux synagogues, l'une à Ajaccio et l'autre à Bastia. À côté de ces communautés historiques, des centres Chabad font vivre le judaïsme insulaire, même si ces lieux juifs ne sont ouverts que quelques jours par an.
Je suis né en Corse, oui, à Bastia exactement. Ah, moi, la communauté juive, je suis présent tout simplement quand on a besoin de moi pour faire, ne serait-ce qu'un minyan. Malheureusement, maintenant, souvent, deux fois, c'est plus pour des décès qu'autre chose. Donc, automatiquement, je descends. Pour faire honneur, quoi. Bon, mais autrement, on n'a pas de... Je n'ai pas, par exemple, de contact journalier ou même à la semaine. Je n'ai qu'occasionnellement. Et puis, de toute manière, la communauté juive ne se fût qu'à Bastia, maintenant, elle est pratiquement plus... Elle est presque inexistante, quoi. En plus, je suis abonné à 3 revues. Ça fait que je suis en permanence au courant de tout ce qui se passe dans la communauté. Et quand j'ai fini de les lire, tous les copains du village me les demandent parce qu'ils sont intéressés.
J'ai grandi à Bastia, j'ai vécu à Bastia, je me suis intégré à Bastia, j'ai parlé corse avant de parler français à l'âge de 3 ans, c'est-à-dire que j'ai l'appartenance juive et l'appartenance corse. Alors, ça me fait les deux. J'ai la chance d'appartenir à deux minorités, la minorité juive et la minorité corse.
En tout cas, une communauté juive de Corse très attachée à son intégration dans la vie locale et aux valeurs de la République.